à suivre dans la troisième manche.
Eric Mamorut pour nous faire vivre ce tournoi de tennis sur Radio France Internationale. Ainsi se referme cette édition, 18h10 à Paris.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
Podcast, émission, animation, c'est parti, le 101.5 ouvre son antenne.
Vous souhaitez devenir animateur ou animatrice radio? C'est à votre tour de prendre le micro en main.
À partir de septembre 2025, matin et soir, partagez votre voix, vos idées et vos mots à tout Angers.
Vous êtes fan de reggae? Vous aimez parler des nouveautés du coin? Des douceurs angevines?
Ce qui vous tient à cœur nous intéresse. Alors allez-y, proposez votre propre émission de radio, lancez-vous dans l'animation radio.
En direct de votre radio angevine, c'est désormais possible en rejoignant Radio G.
Rendez-vous sur radio-g.fr pour remplir le formulaire d'inscription.
44 ans, ça se fête, et ça se fête avec vous.
Bon courage et à bientôt
sur le 101.5 FM.
Radio G, savourez nos différences.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Cette semaine, on sera très branché festival, fête, musique et tout ce qui va avec, puisque demain, on sera avec les organisateurs de spectacles au jardin. Mercredi, on sera avec du foin dans les granges. Et je crois que ce soir, on reste toujours en musique et plutôt même en piano. Pierre Benoît, c'est ça? Bonsoir.
Bonsoir Nolwenn. Effectivement, nous sommes en piano ce soir puisque Pianopolis fait déjà sa troisième édition. Ça va se passer du 27 mai au 1er juin. Et pour en parler ce soir dans Topette, on va être accompagné par l'équipe qui organise ça, qui est au cœur de l'événement. Simon Priarolo, que vous connaissez, qui nous parle habituellement de la fête de la musique, mais là, il va nous parler de Pianopolis plus particulièrement. Il est accompagné de Glenn Bricot, qui est l'assistant de coordination du festival avec lui sur cette troisième édition.
Et ça sera dans quelques minutes. On écoutera aussi un podcast des légendes imaginaires de l'Anjou. Et ce soir, on se quittera avec une rediffusion de La bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Et moi, je vous dis, c'est parti jusqu'à 19h et on peut tout de suite y aller.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale. De la prostitution de mineurs en Anjou, une réalité qui devient très inquiétante. En Maine-et-Loire, on a recensé 125 cas de prostitution de mineurs depuis 2021. Mais selon le conseil départemental, la réalité serait bien plus alarmante. On estime que 5 à 6 fois plus de jeunes seraient concernés, soit potentiellement plus de 750 mineurs. Le phénomène qui touche toutes les classes sociales n'épargne ni les enfants placés, ni ceux vivant au cœur des familles dites éduquées. Certaines victimes ont à peine 11 ans. Les prédateurs, souvent majeurs, opèrent dans des lieux du quotidien, y compris les foyers ou les réseaux sociaux. En banalisant les actes sous couvert de cadeaux ou en parlant d'escorte plutôt que de prostitution, les professionnels de l'enfance alertent sur une société hypersexualisée où les jeunes peinent à identifier leur statut de victime. Le conseil départemental a mis en place une cellule de veille dédiée, mais souligne l'ampleur croissante du phénomène. Autre actualité, un drame au trail du Lion d'Angers. Un jeune athlète qui est décédé en pleine course. Amis sportifs, ce matin, nous avons tous une pensée pour cet athlète parti trop tôt. Nous sommes tous sous le choc et il faudra du temps pour retrouver de la sérénité. C'est par ces mots que le club d'athlétisme de Segré a réagi après le drame survenu samedi soir au Lion d'Angers. Lors du tout premier trail sur la trace du Lion, Théo Richard, un gendarme de 26 ans et futur papa, s'est effondré à 800 mètres de l'arrivée, victime d'un arrêt cardiaque. Malgré une intervention rapide, il n'a pas pu être réanimé. L'émotion est très intense dans le monde du sport amateur. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du décès. Et enfin, dans l'actualité également, un étudiant qui ressuscite l'insurrection oubliée de 1855 de Trélazé. Il y a 170 ans, dans la nuit du 26 août 1855, des ouvriers et des ardoisières tentaient de renverser le pouvoir impérial pour instaurer une république sociale, un soulèvement écrasé dans l'œuf, oublié pour beaucoup, par beaucoup, mais pas par Jérémy Martin Kleinbauer, un jeune étudiant passionné. Avec un ami cartographe, il a retracé pas à pas cette insurrection menée par la société secrète La Marianne. Résultat, une infographie claire et pédagogique en passe d'être intégrée le musée de l'ardoise de Trélazé. Une belle manière de faire revivre la mémoire ouvrière locale, loin des manuels scolaires. Et juste avant d'accueillir nos invités du soir, on va s'écouter un petit podcast du Graal de l'Histoire.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Quoi ? Une IA ne peut pas prendre un café ? Mais si, on peut tout faire. Nous sommes en 1791, il y a plus de 230 ans, et c'est vraiment le bordel en France. La Révolution, ça vous dit quelque chose ? Oh bah si, quand même. 1789, la Bastille, tout ça. Là, on est 2 ans plus tard, et c'est l'anarchie. Ça chauffe sérieusement hein, au derrière du roi de l'époque, Louis XVI. Ayant peur, à raison, pour sa vie, il décide de quitter la France. La frontière la plus proche est à 300 km, c'est la Belgique actuelle. Il prévoit de partir seul et léger, mais sa femme veut être du voyage avec leurs 2 enfants. Pour la fuite rapide, on repassera. Surtout que rien ne va se passer comme prévu. Déjà, pour se retrouver au point de départ, Marie-Antoinette se paume dans les jardins des Tuileries. Vous le croyez, ça ? Quand enfin le carrosse sort de Paris, une roue se casse. Les fuyards ont déjà 3 heures de retard. Les gardes avec qui le convoi avait rendez-vous pour être protégés dans la fin du voyage pensent que personne ne viendra et s'en vont. La famille la plus connue de France est donc en fuite. Lors d'une halte pour changer les chevaux, on les reconnaît. Tu m'étonnes. La nouvelle de leur fuite s'était déjà répandue et le couple royal se fait arrêter à quelques kilomètres de la frontière. Retour au point de départ pour leur destin funeste. De quoi en perdre la tête. Oui, fallait bien que je la fasse. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voyez, faites attention aux détails de l'histoire. Ils peuvent être plus importants qu'on pense. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
Le Graal de l'Histoire que vous pourrez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et juste avant d'accueillir nos invités, d'abord une annonce. Le festival organise sa 6e édition du Foin dans les Granges. La première date à retenir, c'est le 13 juin à la Pointe de Bushmène. Au programme, on aura Lynn Wolf ou encore Alissa Galvan Band. Vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur leur site internet. Et nous, on va tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors Nolan, je ne sais pas si c'est depuis qu'il y a la fête de la musique instaurée par Jack Lang en 1982, merci Simon, on t'a entendu, le micro est ouvert, qu'il y a autant de musique à l'approche de l'été, mais c'est vrai que l'actualité nous oblige à parler de musique. On parlait du Foin dans les Granges, on a parlé du Bruit dans le Bourg, et ce soir on parle de Pianopolis, puisqu'on est avec Simon Priarolo. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Toi tu es chargé de mission musique à la ville d'Angers, à la direction culture, enfin ce département-là de la ville d'Angers, et t'es accompagné de Glenn Bricot. Salut Glenn.
Salut.
T'es l'assistant de Simon sur la coordination du festival Pianopolis, 3e édition. Tout est dans le nom, j'ai envie de dire. Ça va parler de piano. Alors, on n'a pas, les auditeurs, auditrices n'ont pas le visuel. Nous, on a le petit dépliant sous les yeux qui est violet cette année. On rappelle les dates, 27 mai au 1er juin. Visuellement, ça donne envie. Si le soleil est au rendez-vous, en tout cas, on va être dans des lieux super sympas, avec des artistes renommés, des grands noms même du piano, pour les personnes qui sont habituées, qui ont l'oreille habituée, mais aussi des jeunes talents. locaux. Je pense notamment au Ricel qu'on entendra tout à l'heure sur le 101.5 FM. Avant de parler de la programmation de cette troisième édition, Simon, Glenn, je vous propose de redonner un petit peu de contexte sur l'historique parce que c'est un festival qui est arrivé post-Covid, mine de rien, qui est arrivé dans un contexte où on tentait de faire redémarrer la culture, donc c'est pas rien. Dans quel, qu'est-ce qui a fait que ce festival a vu le jour, Simon?
Bah, ça repose sur un constat que dans l'Ouest, il n'y avait pas forcément de rendez-vous à la fois qualitatif et populaire autour du piano. Le piano comme fil conducteur, le piano qui rassemble toutes les musiques, toutes les générations. Le piano, c'est l'instrument accessible assez facilement, même aux néophytes à partir de YouTube, qui va faire quelques notes dans sa chambre. C'est l'instrument qu'on retrouve maintenant dans les gares et qui est pris d'assaut par tout un tas de jeunes prodiges qu'on découvre un peu au hasard. Et puis, c'est aussi l'instrument star des salles de concert, en solo, en accompagnement. Le piano, c'est un peu l'utopie qui rassemble toutes les strates de la société. Et l'idée, je crois, à Angers, elle est née de notre adjoint à la culture, Nicolas Dufetel, qui a pensé que ça pouvait être un événement rassembleur et qui, en plus, avait l'avantage de valoriser les lieux de patrimoine, puisque Angers est riche de son patrimoine. Et donc, cet événement fait sortir les publics, fait sortir la musique dans des lieux différents, qui ne sont pas le Grand Théâtre ou le Centre de Congrès qu'on peut habituellement fréquenter, ou d'autres, mais principalement les Greniers Saint-Jean, les Jardins du Musée Jean Lurçat, et plein d'autres lieux sympas qu'on valorise.
Oui, car Simon, c'est à souligner que Nicolas Dufetel est adjoint à la culture et au patrimoine. Ça, c'est un petit peu ça se fait peut-être ailleurs en France, mais en tout cas, Angers, c'est la particularité, c'est que les deux sont ensemble. Donc, on essaye à chaque fois d'allier dans les propositions culturelles.
Exactement.
On n'oublie pas le patrimoine. Alors, le piano, c'est vrai que c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose qu'on voit partout, dans tous les styles et tous les univers musicaux. En plus, ça peut être même de la musique très récente, de la musique très classique. Même si, je pose la question, parce que la guitare, c'est quand même plus transportable, c'est peut-être plus populaire, le piano, c'était pas un risque aussi d'avoir cette proposition?
Ah bah c'est un instrument un peu contraignant, hein, parce que ça démarre à 200 kilos.
On peut pas le mettre dans la voiture pour aller en soirée, par exemple. Hein.
Non, même si aujourd'hui, le piano numérique, le synthé, et puis tous ses dérivés, les orgues en tout genre, se sont beaucoup beaucoup développés, ont popularisé l'instrument, et beaucoup de pianistes d'ailleurs jouent sur des pianos numériques, et c'est pas du tout un problème avec la qualité d'aujourd'hui. Mais non, c'est cette idée que ouais, cet instrument contraignant peut aussi être de multiples facettes. Donc c'est un bon fil conducteur et qui nous permet d'ouvrir plein de portes différentes dans, comme tu l'as dit, toutes les esthétiques.
Simon, Glenn, est-ce que vous jouez vous-même du piano ou pas, Glenn?
Ah moi non.
Non, musicien peut-être.
Je l'ai été, mais c'est révolu pour le moment, mais pourquoi pas, ça peut être un déclencheur aussi. Hein.
C'est la question que je vous poserai, parce que c'est vrai qu'organiser un festival d'un instrument qu'on peut aussi découvrir au travers de ce travail-là, finalement, ça peut être intéressant.
Moi, je pianote un petit peu, même si mon instrument principal, c'est plutôt la clarinette.
La clarinette, oui, ouais. Ça se transporte bien aussi, la clarinette.
C'est plus mobile.
Plus original que la guitare, ça c'est sûr. Parlons de l'implantation du festival, troisième édition. Les publics sont là. Ça y est, c'est un festival qui maintenant est inscrit dans la durée, qui va continuer, l'organisation, ça roule bien. Glenn pourrait peut-être parler aussi, qui prend l'organisation en cours de route. T'as le sentiment d'arriver dans quelque chose qui roule bien?
Ouais, bah ça se voit que il y a déjà deux précédentes éditions qui sont déjà installées, toute la dynamique est déjà là, mais en même temps c'est très stimulant aussi parce que ça reste que la troisième édition, puis il y a encore des choses à faire et à découvrir et avec des propositions artistiques nouvelles évidemment et voilà, ouais bien sûr.
On innove un petit peu pour cette année, pour la troisième édition, Simon, on reste un petit peu dans la continuité des deux premières?
On a gardé un format qui a fait ses preuves, qui alterne des concerts gratuits, des concerts payants, du plein air, du en salle, du jeune public et puis du public plutôt adulte. Donc ça ne change pas. Ce qui change, c'est tous les artistes. C'est quand même un beau renouvellement. À quelques artistes près qu'on a voulu réinviter parce que vraiment... ils avaient encore de belles choses à nous dire. Sinon, la plupart des concerts accueillent de nouveaux artistes. Ce qui change, c'est peut-être un peu l'instrumentarium. Donc, on a du piano solo, mais pas que. Voilà, cette année, par exemple, on invite l'accordéon. Donc, c'est un cousin du piano, c'est le piano à bretelles.
Accordéon Police.
Accordéon Police, c'est ça. Bah, ça reste du piano, puisque à la base, l'accordéon, c'est un clavier de piano. Pour des raisons techniques, on a mis des boutons ensuite. Mais voilà, l'accordéon est à l'honneur cette année. C'était le marimba l'an dernier, le clavecin il y a 2 ans. Donc on a voilà ce format un peu hybride avec accordéon violoncelle le samedi après-midi. On a un trio aussi violon violoncelle piano le samedi soir. On a du piano plus d'aujourd'hui avec Auristel et Clémache le jeudi soir. Voilà, On a du piano au cinéma, avec le ciné-concert Ghost de Tokyo au 400 coups. Voilà, autant de propositions pour déployer toutes les possibilités de l'instrument.
Ça y est, on a commencé à égrener la programmation de cette troisième édition. On va laisser encore un petit peu de suspense le temps d'une pause musicale. C'est important de le rappeler, Simon Glenn, il y a le piano, mais pas que, puisque du coup, il y a le cinéma, l'improvisation, c'est le fil conducteur, le fil rouge de cette troisième édition. On va en parler dans quelques instants, mais avant tout ça, Nolwenn, justement, nous faisons une pause avec une artiste qui vient d'être évoquée.
Et oui, on va faire une pause avec Auristel. On écoute son titre Renaissance.
Ainsi je cède au bonheur.
On écoutait Renaissance de Auristel sur le 100.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours avec nos invités du soir, Pierre Benoît.
Nolwenn, t'as apprécié ces petites notes de piano sur le titre d'Auristel ?
C'était incroyable.
Et ben voilà, si t'es séduite par ces notes de piano, tu vas pouvoir profiter d'encore plus de notes de piano et même pas que du piano. Il y avait aussi de l'accordéon, on en a parlé, on a commencé à en parler puisqu'on parle de Pianopolis, 3e édition avec Simon et Glenn qui sont chargés de l'organisation de cet événement et mais pas que pour Simon puisque peut-être que tu reviendras d'ailleurs parler de la fête de la musique, qui sait, le mois prochain. En tout cas, pour l'instant, on est sur cette édition du 27 mai au 1er juin, 3e édition donc de Pianopolis. Jeune talent, grand nom et ce fil rouge du cinéma et de l'improvisation. On va parler de la programmation, on va pas tout dire sur la programmation parce qu'elle est très dense. Le livret, c'est un livre, hein, clairement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On vous laissera le consulter, mais on va quand même essayer de vous donner encore plus envie d'y aller. La programmation, quand même, dans les grandes lignes, Simon, Glenn, par rapport à ce fil rouge du cinéma et de l'improvisation, comment est construite cette programmation puisqu'on n'a pas que... de la musique, on va essayer d'aller aussi aux 400 coups. Et puis d'ailleurs, oui, à cette heure-là, dans moins de 30 secondes, va commencer, c'est ça qu'on avait dit hors antenne. Glenn, au Joker's Pub, il se passe des choses.
Bah oui, tout à fait. En parallèle du festival qui vient se compléter en fait les propositions de la programmation, il y a Clip d'ici, du coup une association angevine qui propose un temps dans le cadre du festival où il s'agit de projeter au Joker's Pub des clips avec notamment du piano. Donc voilà, donc ça permet de faire de rentrer dans le clin d'œil au cinéma, à l'art vidéo, en lien avec le piano. Donc.
Et maintenant, les auditeurs auditrices sont face à ce choix cornélien qu'on dit, hein, de soit rester à l'écoute de l'émission, soit de filer au Joker's Pub, profiter de cette proposition qui est même pas dans la programmation. Voilà, on vous donne le tips entre nous, comme ça. Parlons de la prog, du coup, les points forts, les choses qui vont permettre d'articuler tous ces jours autour du piano, mais pas que, Simon.
Simon, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le choix des grands concerts est confié à Alexandre Kantorov, qui est un pianiste virtuose. Qui a 27 ans, je crois, cette année, qui s'est fait connaître il y a quelques années en gagnant le prix Tchaïkovski, qui est le plus grand concours de piano qui a lieu tous les 4 ans à l'échelle internationale. Et donc Alexandre, qui a une affection particulière pour Angers, qui est venu plusieurs fois, nous fait l'honneur de venir jouer, donner un concert, mais aussi de faire ce choix des artistes invités qu'il a envie de mettre à l'honneur. Et c'est vrai qu'il y a notamment deux invités qui marquent cette grande diversité que peut embrasser le piano. C'est à la fois Eliso Virsaladze, qui est une vieille pianiste, on peut le dire, avec beaucoup de respect, de 80 ans, qui fait partie de l'école soviétique du piano et qui va faire l'ouverture vendredi soir au Grenier Saint-Jean, premier concert, autour de Chopin notamment. Et puis le lendemain, une pianiste junior qui s'appelle Ariel Beck et qui a 16 ans, donc près de 70 ans d'écart presque avec Eliso. Et donc Ariel, qui a 16 ans, va venir aussi nous présenter son talent, son programme. Donc voilà, c'est pour montrer vraiment cette très grande diversité dans la programmation.
Donc ça, ce sont pour les artistes piano purs et durs. Si on s'intéresse aux autres programmations, plutôt cinéma, qui essaient de croiser avec le thème. Glenn, apparemment, tu es désigné pour nous faire le focus sur un point de cette programmation, justement.
Oui, effectivement, le mercredi, donc il y aura deux propositions dans le cadre du festival. Au cinéma, les 400 coups. On a à 17h une projection d'un film qui s'appelle Richter l'insoumis, qui est un film qui a été réalisé par Bruno Mont-Saint-Jean, donc qui est un réalisateur spécialisé notamment sur les pianistes, qui a suivi de très près plusieurs carrières entières de pianistes renommés ou au contraire plus discrets qu'il essaie de nous faire découvrir. Ici c'est le cas avec Richter, donc qui était un pianiste renommé de son époque, et Bruno Mont-Saint-Jean sera présent au cinéma pour nous présenter ce film-là. Et à 20h ensuite, en restant toujours au cinéma Les 400 coups, il y a le film Ghost de Tokyo, donc un film du réalisateur Ozu de 1932, donc un film japonais, muet, en noir et blanc. En bande son, en fait, il y aura le pianiste Carole Beffa qui sera là pour accompagner le film au piano.
Voilà, c'est ce qu'on disait aussi hors antenne, c'est de faire des propositions qui vont au-delà du simple fait d'avoir un écran en face de soi, mais voilà, c'est accompagné, il y a la musique en même temps, c'est des propositions qu'on pourrait pas retrouver ailleurs. Alors le piano, on va pouvoir l'entendre, le voir, et on va pouvoir en parler aussi, puisqu'il y a des causeries, des conférences qui sont organisées, Simon.
Tout à fait, on garde Bruno Mont-Saint-Jean, dont Glenn parlait à l'instant, ce réalisateur qui travaille beaucoup autour de la musique et du cinéma, va venir nous parler de son travail le samedi matin, Donc on sera le 31 mai à 11h, pour une causerie, voilà, avec Jean-Yves Clément, qui lui-même dirige plusieurs festivals et qui va le faire parler sur son travail.
Donc ça, ce sont pour les dates fortes. Il y en a une autre qui te...
Non, je pensais à ça. Je pensais au jeune public et je voulais pas qu'on oublie d'en parler tout à l'heure.
On va des familles, c'est voilà. Ça. Voilà, bah on peut en parler maintenant si et tu veux la programmation identifiée pour les familles du coup. Peut-être avec des propositions plus accessibles, oui. De manière pas péjorative.
Évidemment. Non, effectivement, ça marche aussi pour les adultes et tout le monde est bienvenu, mais en particulier les enfants à partir de 5 ans. On a deux propositions, l'une samedi matin à la bibliothèque Fratellini, qui est une bibliothèque du réseau des bibliothèques d'Angers, spécialisée dans la musique, qui dispose d'un piano toute l'année, d'un fond de partition, et donc là qui met à l'honneur les Fables de La Fontaine, à travers un petit spectacle tout simple qui mêle les classes de théâtre et de piano du Conservatoire d'Angers. C'est gratuit à 10h30, avec un petit goûter en plus. Et puis, dimanche matin, 1er juin, l'ensemble Minium 21, qui est composé de professeurs actuels ou anciens du Conservatoire d'Angers, qui nous fait une version un peu musicale et actualisée de l'Odyssée de dans une version musicale. Ça s'appelle La Nouvelle Odyssée ou La Revanche de Poséidon. Et ça, ce sera à la Maison de Quartier des Hauts de Saint-Aubin à 11h dimanche.
Et figure-toi qu'on en a parlé lundi dernier dans cette émission, puisque la Maison de Quartier des Hauts de Saint-Aubin vient assez régulièrement dans Topette. Voilà, donc on avait déjà eu un petit aperçu. Glenn, je me tourne vers toi peut-être pour les lieux, parce que voilà, faut préciser aussi géographiquement dans la ville d'Angers, même si tu n'es pas d'Angers, où est-ce que ça va avoir lieu. Et surtout, il y a des pianos qui vont être mis en libre accès si on a envie de s'essayer ou de partager un bon moment de convivialité. Et ça sera pour embrayer après une nouvelle pause sur le village. Mais avant tout ça, les lieux, Glenn.
Oui, tout à fait. Alors, une grosse partie du festival, ça se déroule sur le site Saint-Jean, donc dans le quartier d'Outres, qui est un ancien hôpital religieux du XIIIe siècle. Donc, ça se déroule notamment dans les greniers de ce site-là, qui est une très grande et très jolie salle, qui pour l'occasion est transformée en salle de concert. Mais il y a aussi autour de cette salle-là, il y a dans le jardin, il y aura des propositions en extérieur, dans la cour avec un espace notamment de convivialité, avec de la restauration, une petite buvette et puis également un piano en accès libre sur lequel il y aura également des pianistes qui seront prévus, qui viendront faire des petites propositions. Donc ça c'est sur le site principal, mais également il y a aussi un peu du piano dans toute la ville, hein, c'est dans le nom Pianopolis. Il y a un piano en libre accès à la place Saint-Éloi, un autre également à la place du Pilori. Il y a deux autres propositions de concerts qui sont faites par le pianiste Franck Supp, qui se promène avec un piano sur remorque et qui ira se promener jeudi sur la place Ney à 16h. Et sur la plaine de la Lande, dans le quartier Belbeil, à 17h. Donc des propositions de piano en extérieur pour toucher les promeneurs comme les personnes curieuses. Avec notamment, ici encore, quelques propositions autour du cinéma sur le répertoire qui sera joué. Voilà.
Ben voilà, il a trouvé la solution pour faire concurrence à la guitare. Il suffit d'avoir une remorque et de mettre son piano dedans. Les pianos seront à l'air libre vraiment, ou il y aura une petite de quoi protéger si jamais il y a des petites gouttelettes aussi.
On a prévu une petite tente au-dessus qui servira soit à faire de l'ombre, soit à protéger de la pluie si quelques gouttes finalement arrive, mais la météo s'annonce très bonne et ça c'est un très bon point pour nous.
On croise les doigts. Bon, on a commencé à en parler du village, on va en parler plus largement dans quelques instants, les infos pratiques aussi, puis voilà, on va parler piano encore. Mais Nolwenn, avant tout ça, on fait un petit détour par un podcast.
Exactement, on va s'écouter un podcast des légendes imaginaires de l'Anjou.
Bienvenue dans notre exploration des mythes et légendes de l'Anjou. Nous allons nous aventurer dans les profondeurs de la forêt de Chandelet, à la découverte de la sombre légende du chêne des pendus. La forêt de Chandelet, située entre Beaugés et Noyant dans le nord-est de l'Anjou, est un lieu chargé d'histoire et de mystère. Couvrant plus de 300 hectares, cette forêt domaniale abrite en son cœur un arbre particulier, objet de nombreuses légendes et superstitions, le chêne des pendus. Notre histoire commence au Moyen-Âge, une époque où la forêt de Chandelet était le théâtre de nombreuses exécutions. En effet, à cette période, la justice seigneuriale avait pour coutume de pendre les condamnés aux branches des grands arbres à la vue de tous pour servir d'exemple. Parmi ces arbres, un chêne majestueux se distinguait par sa taille impressionnante et ses branches robustes, parfaites pour les sinistres besognes des bourreaux. C'est ainsi que cet arbre devint tristement célèbre sous le nom de « chêne des pendus ». La légende raconte que les ânes des condamnés, incapables de trouver le repos, restaient attachés à cet arbre. On dit que par les nuits sans lune, on peut encore entendre leurs gémissements portés par le vent qui souffle dans les branches. Mais l'histoire la plus terrifiante associée à cet arbre est celui du pendeur fou. Selon la légende, au XVIe siècle, un bourreau nommé Gilles Mauclair officiait dans la région. Cet homme était connu pour prendre un plaisir malsain dans l'exécution de sa fonction, allant jusqu'à inventer des supplices supplémentaires pour ses victimes. Un jour, alors qu'il devait exécuter une jeune femme accusée de sorcellerie, Gilles Mauclair fut frappé par sa beauté. Il lui proposa un marché. Si elle acceptait de l'épouser, il la laisserait vivre. La jeune femme, terrifiée, accepta. Mais le soir des noces, alors que le bourreau s'était endormi, la jeune femme s'enfuit dans la forêt. Fou de rage, Gilles Mauclair se lança à sa poursuite. Il la rattrapa près du chêne dépendu et, dans un accès de folie, la pendit aux branches de l'arbre maudit. À partir de ce jour, Gilles Mauclair perdit la raison. Il se mit à errer dans la forêt, capturant et pendant quiconque avait le malheur de croiser son chemin. Les villageois terrifiés n'osaient plus s'aventurer dans les bois. Ce n'est que lorsque le seigneur local envoya une troupe armée que le pendeur fou fut finalement capturé. Il fut jugé et condamné à être pendu à son tour au chêne des pendus, rejoignant ainsi ses victimes dans la mort. Depuis lors, on raconte que l'esprit tourmenté de Gilles Mauclair hante toujours la forêt de Chandelay. Les habitants de la région affirment que par les nids d'orage, on peut apercevoir une silhouette sombre rôdant autour des chênes des pendus à la recherche de nouvelles victimes. Cette histoire du chêne des pendus nous rappelle la brutalité de la justice médiévale et la façon dont les communautés géraient la mémoire de ces événements traumatisants. La légende servait à la fois d'avertissement moral et de moyen de donner du sens à des pratiques judiciaires aujourd'hui considérées comme barbares. Elle témoigne aussi de la place importante qu'occupaient les arbres dans l'imaginaire de nos ancêtres. Considérés comme des êtres vivants dotés de pouvoirs mystiques, les arbres étaient souvent au centre de croyances et de légendes. Aujourd'hui, le chêne des pendus de la forêt de Chandelay est devenu une attraction touristique. Des visites guidées sont organisées pour raconter son histoire aux curieux. Certains affirment même avoir capturé des orbes mystérieuses sur leurs photographies, alimentant les théories sur la présence de fantômes. Que l'on croit ou non aux légendes, le chêne des pendus reste un témoin silencieux de l'histoire mouvementée de notre région. Il nous rappelle que chaque forêt, chaque arbre, a une histoire à raconter, pour peu qu'on prenne le temps de l'écouter. Alors, si vous vous promenez un jour dans la forêt de Chandelay, que vous tombez sur un chêne particulièrement imposant, prenez un moment pour réfléchir à son histoire. Mais peut-être vaut-il mieux ne pas s'y attarder trop longtemps, une fois la nuit tombée. On ne sait pas qui ou quoi pourrait encore rôder dans les ombres. Voilà qui conclut notre chronique sur les légendes angevines. J'espère que cette sombre histoire du chêne des pendus vous a captivé et vous donnera peut-être un frisson la prochaine fois que vous vous promènerez en forêt. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Les légendes imaginaires de l'Anjou à retrouver toujours dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et nous, on continue toujours à parler de piano, Pierre Benoît.
Et oui, on va tester l'oreille absolue de nos invités de ce soir. Là, alors Glenn, c'est ça? Pas du tout. On en parlait justement hors antenne de musique, puisque c'est le sujet principal de la soirée, de notre sujet de la soirée, mais aussi du sujet qui est évoqué par le festival Pianopolis dont on parle. On a évoqué un petit peu la programmation, on l'a survolée parce qu'elle est assez dense quand même. Il y a que 3-4 jours, un petit peu plus, mais c'est quand même très riche. Donc on va vous laisser. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ça, Glenn? Je me tourne vers toi. Le petit flyer, la petite programmation, où est-ce qu'on peut la retrouver en ville?
Alors il doit être dans plusieurs lieux de la ville. Alors de là à lister lesquels, je ne sais pas. Il est au moins au Grand Théâtre, ça c'est sûr. Il est retrouvable là-bas.
Donc, tous les réseaux partenaires, de toute façon,
voilà, le cinéma, tous les lieux culturels, les bibliothèques,
Site internet.
Le site internet. Et il faut retenir angers.fr/pianopolis et on retrouve tout, y compris la billetterie depuis cet espace.
Voilà, ouais. Police, P-O-L. S à la fin. Voilà. Festival Angers Pianopolis, 3e édition. Donc, on a parlé de la programmation que je viens de dire, des lieux, des pianos qui seront mis à disposition. Vous allez vous y tenter ou pas, Glenn, Simon
Ce matin.
Ce matin, t'as testé, Simon
Ce matin, on a testé celui qui était sorti à côté de la place du Pilori. Et c'est toujours assez fascinant de jouer du piano dans la rue, sur le trottoir, comme ça. C'est une rencontre.
Oui, puis c'est une sacrée dose de courage. Il faut savoir en faire assez bien pour pas effrayer les passants qui.
On risque pas grand chose. C'est comme à la gare. Les gens, ils écoutent pas vraiment, donc on peut y aller sans risque.
Glenn a l'air moins ok pour tester.
Ah non. Pour tester, pas forcément, mais non, je pense que de manière générale, il y a une facilité à s'y essayer quand même quand on passe devant. Ça désacralise d'une certaine manière, sans enlever le prestige de l'instrument, le fait d'en avoir comme ça en extérieur.
Voilà, ça le rend moins élitiste peut-être auprès du public en juin au sens large, le public plus populaire.
Et d'ailleurs, j'ai un petit à dire à ce sujet, le piano élitiste, effectivement, c'est une image qu'on peut avoir, mais le festival, même s'il accueille de grands artistes internationaux, il donne vraiment de la place à tous les pianistes, à tous les niveaux. Et on a vécu il y a quelques jours la finale d'un petit tremplin qui s'appelle le Pianopolis Challenge, qu'on avait lancé il y a un mois et demi sur les réseaux sociaux. Et les candidats devaient envoyer un petit bout de vidéo en taguant le festival. Et on a reçu à la MPT, à mon plaisir, les 11 finalistes. Et donc les gagnants vont pouvoir jouer ce week-end sur le piano du village du festival. Et on a eu vraiment des rencontres incroyables avec des pianistes de tous niveaux. Alors on avait fait des prix pour les plus jeunes, moins jeunes, ceux qui suivent un cursus en tant qu'élève étaient traités aussi de manière spécifique. Mais voilà, ça nous montre aussi la diversité de tous les profils qui s'emparent de l'instrument. Certains, en apprenant tout seul dans leur chambre, c'est assez génial. Ouais.
Nolwenn, toi tu pianotes sur la console du studio, mais est-ce que tu pianotes dans la vraie vie?
Non, pas vraiment, mais ma sœur s'était acheté un petit piano et elle a jamais pris de cours ni rien. Du coup, elle mettait les notes sur chacune des touches et elle l'apprenait comme ça à faire du piano. Une autre manière aussi d'apprendre, je pense.
Il y a même des applis aujourd'hui qui te corrigent. Hein. Tu joues un truc, si c'est pas la bonne note, il te le dit. Et tu peux apprendre comme ça des morceaux.
On en est rendu à parler de la sœur de Nolwenn. C'est très convivial cette émission. Et justement, j'utilise ce mot parce que c'est un petit peu ce qui va caractériser le village du festival. Glenn, tu en parlais tout à l'heure au Grenier Saint-Jean autour. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de restauration sur place, accès libre, les infos pratiques peut-être autour de ce festival? Là, on va pouvoir retrouver le flyer, j'imagine.
C'est un village qui sera ouvert à partir de vendredi soir jusqu'au dimanche soir. À l'arrière des Greniers Saint-Jean, donc dans la cour, et on a effectivement des food trucks, on a des bières locales, on a des vins de Loire. Il y a ce piano au milieu qui sera joué par les élèves, et donc c'est un lieu en lui-même tout à fait chouette pour venir flâner, écouter, découvrir, boire un coup, discuter, et on peut aussi échanger avec les artistes puisque c'est un point fort de notre festival, c'est de pouvoir être en grande proximité avec les artistes qui ont plaisir à venir discuter à la sortie des concerts.
Voilà, bon, de toute façon, pour le public en juin, pas le choix, le festival est au cœur de la ville, donc on ne pourra pas passer à côté. Glenn, sur le côté peut-être organisation plus pratique, puisque du coup, toi, t'es en stage avec la ville d'Angers et tu es mobilisé sur l'organisation de ce festival. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses qui t'ont paru complexes? Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'organiser un festival comme ça, un peu éclaté partout au cœur du tissu urbain.
Non, c'est pas évident, mais justement, c'est assez intéressant d'essayer de faire en sorte d'avoir un événement qui peut s'adresser à plein de personnes différentes, et puis pour ça, avoir justement des endroits de partage, une programmation qui se veut riche et variée, et puis qui peut s'adresser à plusieurs publics, et puis sur le plan de l'organisation. C'est quelque chose qui demande de mobiliser plein de monde, d'avoir pas mal de monde autour de cet événement pour que ce soit une réussite, voilà.
Est-ce qu'il y a des points que tu voulais encore évoquer? Je sais pas, je te vois sur une page du flyer de la programmation, s'il y a des choses qu'on aurait oublié, les prix, les infos pratiques peut-être, ouais.
Oui, les tarifs c'est de 3 à 25 euros. Donc on essaie d'avoir un tarif accessible. Le 3 euros est très important pour les moins de 26 ans en dernière minute. Voilà, on peut le déclencher à l'entrée des concerts, donc même au pied levé on peut bénéficier d'un tarif assez bas. Et puis c'est vrai que Glenn, tu montrais la page des partenaires et mécènes, ils sont assez nombreux et le festival repose aussi sur un certain nombre d'entreprises qui nous soutiennent. Donc on a vraiment de la chance de pouvoir compter sur eux. Voilà.
Et on a de la chance d'avoir ce genre de proposition aussi à Angers, parce que bon, c'est vrai que la culture, on l'entend au travers des différents invités qui passent dans Topette, elle est peut-être pas tout le temps soutenue à fond. C'était pas évident la période Covid. Il y a de nouvelles choses qui sont pas forcément évidentes en perspective. Et Angers, on a cette chance d'avoir ces propositions là qui restent très accessibles, hein, Simon Glenn.
Tout à fait. C'est un vrai effort, hein, je pense, de la part de la collectivité, de maintenir ces propositions, alors que d'autres collectivités ont réduit drastiquement leur soutien. Et c'est aussi parce que les entreprises nous aident et puis qu'on a aussi un modèle qui repose en partie sur la billetterie. Donc voilà, c'est un festival qui se tient aussi sur trois jambes avec des fonds propres, la billetterie et du mécénat.
On retrouve les infos pratiques où ça, Glenn?
Eh ben on les retrouve dans le petit prospectus que vous pouvez retrouver un peu partout en ville, mais surtout aussi sur la page en ligne angers.fr/pianopolis.
Et l'application Vivre Angers, c'est ça, elle est à jour, c'est bon?
Tout à fait, c'est à jour. On retrouve tous les concerts, les gratuits, les payants et les propositions dans le détail.
Eh ben parfait, et puis on va pouvoir vous retrouver, vous, Simon et Glenn, peut-être sur un des pianos. J'ai compris que voilà, c'était un petit kiff que vous aviez. et puis vous n'êtes pas tous les deux organisés, bien sûr.
Il y a toute une équipe.
Il y a toute une équipe.
Tout à fait, on les salue d'ailleurs.
On salue, exactement. Merci beaucoup Simon, voilà. Simon Prigarolo, toi tu es chargé de mission musique à la ville d'Angers, et Glenn Bricot, tu es assistant de coordination sur l'organisation donc du festival Angers Piano Police. Simon, peut-être au mois prochain, parce qu'on va parler de la fête de la musique, il y aura Cécile qui sera avec nous. Est-ce que tu seras avec elle?
Avec plaisir.
Mystère. Nolwenn, on se quitte avec quoi? De la musique? Tonton Albert?
On va se quitter avec Tonton Albert, avec une rediffusion de La Bouteille aux Trois Quarts Vide. Et bien nous on vous dit à demain, et Topette. Alors, tonton, l'année se termine?
Et pas en beauté, si tu veux mon avis. Dans un passé notoirement nauséabond, une menace explicite vis-à-vis de la culture avait été brandie, et par extension envers celles et ceux pour qui la culture n'était sûrement pas des clopinettes. Cette sentence, attribuée à un maréchal à croix gammée, alors qu'il ne faisait que la colporter, proclamait ceci. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. De nos jours, ce type de réaction pour le moins antinomique n'a heureusement plus cours. Et tout particulièrement dans notre riante région des Pays de Loire. Non, désormais, on ne sort plus de revolver, mais la hache budgétaire. Pour les coupes sombres, la hache, c'est bien pratique. Alors que le flingue, ça ne fait juste que quelques trous, insuffisants, notoirement insuffisants. Vous me direz, vous qui m'écoutez, il existe des moyens infinis pour détruire la création artistique et la soif de connaissance qui, au moins en théorie, devrait animer n'importe quel humain doté d'un cerveau. En résumé, tout ce qui peut nous rendre moins stupides et de ce fait plus à même de mieux vivre nos existences d'humains et de les partager avec d'autres humains, c'est ça. La culture. Manifestement, cette perception n'est pas unanimement partagée par nos dirigeants régionaux. Des dirigeants qui, comme leur nom l'indique, nous dirigent vers un futur du repli sur soi. Oh, que ça fleure bon, la perspective réjouissante. Simultanément, alors que le gouvernement démocratiquement élu de M. Barnier est désormais prié de faire ses cartons, imposait à notre docile région des Pays de Loire de lui reverser la bagatelle de 40 millions d'euros, notre zélé président de la région pratiquait une inattendue surenchère en annonçant 60 millions d'économies supplémentaires. Qui dit mieux? Et comme je le laissais entendre précédemment, la culture est toute désignée pour participer activement à cet effort de guerre. Le chiffre de 73% de restrictions budgétaires est avancé en ce qui concerne la culture. Tant qu'on y est, pourquoi pas 100%. Bizarrement, je n'ai pas entendu dire que les élus du conseil régional allaient renoncer à leurs émoluments pour limiter la casse de l'offre culturelle régionale. Mais j'ai dû être distrait et mal écouter les infos. Ce qui est finalement assez croustillant dans cette affaire, c'est de noter que notre présidente de région est encartée dans un parti politique qui se nomme Horizon. À n'en point douter, en Pays de Loire, l'horizon devient sacrément bouché pour la culture. Les partis politiques changent fréquemment de nom, histoire de montrer qu'ils sont encore en activité, qu'ils n'ont rien de ces volcans éteints. Aussi, pourquoi ne pas suggérer à Horizon de s'appeler désormais, je ne sais pas moi, liquidation ? Ceci étant précisé, il me paraît légitime de vous suggérer une lecture petit budget, surtout pour les professionnels de la culture, alors que la pleine saison des cadeaux pointe son nez.
Ah voilà les poches sous les yeux de Noël.
Certes, cher ami, encore que dans la continuité de ce que je viens de développer, on a un peu l'impression que c'est la région Pays de Loire qui fait les poches à la culture.
Tonton, tu es forcé de faire sans arrêt ce genre de jeu de mots douteux.
Ça doit être une seconde nature, Nolwenn, contre laquelle je ne parviens pas à lutter.
Une forme d'addiction.
En quelque sorte. Bon, je peux enfin parler du bouquin dont je pense le plus grand bien. Merci, Nolwenn. Aujourd'hui, je vous embarque au Texas, au début des années 70. Henry Quinn, un jeune homme d'une petite vingtaine d'années, sort de prison où il a purgé une peine de 3 ans pour avoir accidentellement blessé, par balle, sa voisine, une honnête mère de famille. Il avait pour compagnon de cellule un certain Evan Riggs, qui a eu son heure de gloire en tant que musicien de country, avant de sombrer dans l'alcool et une dépression carabinée. Funeste cocktail qui l'a conduit à frapper à mort un huissier venu lui apporter le type de mauvaise nouvelle que les huissiers ont le don de trimballer avec eux. Pour cet acte dont il ne se souvient pas, car évaporé dans les brumes des mégadoses de bourbon qu'il a avalé ce jour-là, il a pris perpète. Comme Evan Riggs a plus d'une fois tiré d'affaire, euphémisme, son co-détenu au cours de son incarcération, Henry Quinn se sent redevable vis-à-vis de Riggs. Et ça tombe bien, car ce dernier a une mission à lui confier, maintenant qu'il sait que Quinn va recouvrer la liberté. Riggs remet à Quinn une lettre destinée à sa fille Sarah, née alors qu'il était déjà pensionnaire à vie du pénitencier, une fille qu'il n'a jamais vue et dont il ignore jusqu'à l'adresse. On se doute que ça ne va pas être simple pour le brave Henry Quinn de retrouver la trace de Sarah, qui à son âge, à peu de choses près. Mais il a donné sa parole à son ami Riggs, et il va s'évertuer de remplir sa mission. Il a une piste toutefois. Il lui faut se rendre dans le village natal de Riggs, au fin fond du Texas. Un village dont le frère de Riggs est, ironie du sort, le shérif. Mais despote ou monarque seraient des termes plus adéquats, tant il est vrai que le frangin prénommé Carson règne en maître sur le patelin et ses habitants en employant des méthodes pour le moins singulières. L'affrontement entre le tout frais ex-toulard et l'inquiétant shérif ne tardera pas, car l'aurais-tu deviné, ma chère Nolwenn ?
Le shérif n'a aucune envie d'aider Henry à retrouver celle qui est quand même sa nièce.
Eh, hey, tout juste. On peut même ajouter que Carson et Ivan, c'est un copier-coller de Caïn et Abel. Les deux se détestent à mort. En partie parce que leur père a clairement manifesté sa préférence pour Ivan au détriment de Carson. Mais pas seulement. On ne tardera pas d'ailleurs à découvrir l'origine du féroce contentieux existant entre eux. Un contentieux prénommé Rebecca, qui est la femme que les deux frères ont chacun follement aimée. Au moyen de judicieux flashbacks, R.J. Ellery, l'auteur de ce roman intitulé « Le chant de l'assassin », va nous faire découvrir par touches successives comment Carson Riggs peut nourrir autant de haine à l'encontre de son frère et par transitivité envers celui qui est son messager. Le puzzle va peu à peu s'assembler pour former un tableau des plus terrifiants. Nous sommes certes au Texas, mais Ellery a repris les codes de la tragédie grecque ou du drame shakespearien, l'un étant, il est vrai, la continuité de l'autre. La folie qui mène au point de non-retour, la soif de pouvoir jumeler à l'appât du gain, l'incompréhension et le défaut de communication entre les êtres, les non-dits, l'implacable emprise du désir sur nous, pauvres humains, la trahison... Tous ces ingrédients adroitement triturés et cuisinés par R.J. Ellery font que Le chant de l'assassin est un de ces romans que l'on ne lâche pas, ou plutôt qui ne vous lâche pas, candide lecteur qui en avait simplement lu la première page. Bonne lecture et à l'année prochaine pour d'autres poches sous les yeux et d'autres bouteilles.
Être mieux. Dis-moi s'il te plaît.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.